Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Vous êtes bien sûr dans Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h et j'en profite pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder. 2 millions, voilà, vous êtes 2 millions à nous regarder et à nous écouter tous les jours dans Estelle Midi. On est très 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 contents. RMC, troisième radio de France entre midi et 15h. On n'est pas peu fiers. On espère que ça va continuer. Et puis, si jamais vous nous ratez, eh bien, vous savez que vous pouvez nous retrouver à n'importe quelle heure de la journée en podcast sur l'appli RMC et puis bien sûr vos plateformes préférées, Spotify, Deezer, on est absolument partout. On va parler de quoi à partir de maintenant dans Estelle Midi? On va parler du Conseil d'État qui empêche la ville de Beaucaire d'installer une crèche dans sa mairie. Est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est scandaleux? On vous attend bien sûr au 32-16. 13h30 ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50 la minute conso avec Stéphane Pedrazzi et on s'intéressera aux clients mystères. C'est le bon plan pour arrondir vos fins de mois et passer du bon temps dans les endroits de rêve. À 14h, après le mois sans alcool, le mois sans tabac, voici le No Nut November, le mois sans sexe. Un mois sans faire l'amour. Cap ou pas cap, là encore, on attend vos réactions. Et puis à 14h30, RMC s'engage pour vous et Amélie Rosic qui tentera d'aider Sandra. Sandra n'a plus la fibre depuis 4 mois dans son logement parce que des rats ont mangé les câbles. Et donc, maintenant, c'est... des surmulots. Donc, elle n'a plus de réseau, mais personne ne l'aide. Donc, on va évidemment essayer, grâce à RMC s'engage pour vous, de régler ce problème. Et puis peut-être que l'émission se terminera en apothéose, oui. Et qu'on ouvrira le coffre et qu'on gagnera la totale RMC.
Oui, à quelques jours de la Coupe du Monde, RMC continue à vous offrir le meilleur équipement high-tech. Et vous vous inscrivez tout de suite en envoyant coffre par SMS au 732-16. Si vous êtes sélectionné, vous repartirez avec le téléphone Samsung Galaxy M23 et avec le Visio projecteur portable. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir de garder ce cadeau, c'est un très beau cadeau quand même. Ou alors, d'y renoncer et d'ouvrir le coffre RMC à l'intérieur soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde avec une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four, un mini pizza et un mini bar. Rien que ça, pour vous inscrire, vous envoyez coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
Bientôt Noël, un peu plus d'un mois. Mais dans la ville de Beaucaire, Noël ne sera peut-être pas Noël. Pourquoi? Eh bien parce que le Conseil d'État a tranché. Il n'y aura pas de crèche installée dans la mairie pour la période de Noël. C'est l'épilogue d'une très longue histoire, Rémi.
Oui, il faut d'abord savoir en ce qui concerne la présence de crèche de Noël au sein d'une mairie. La loi reste floue. Si la présence de cette crèche dans un bâtiment public revêt un caractère religieux, c'est interdit. Au nom de la laïcité. En revanche,
crèche a un caractère religieux.
Oui, mais pas forcément. Attends, écoute bien. Ah bon. Écoute bien la loi. En revanche, si l'installation d'une crèche dans la mairie répond à une coutume locale, là, c'est autorisé. Et c'est justement à ce titre que la ville de Beaucaire entendait continuer à installer sa crèche de Noël au sein de l'hôtel de ville. C'est une tradition locale. Mmh. Mais la justice ne l'a pas entendu de cette oreille. En décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes, saisi par le préfet du Gard, avait ordonné en référé que cette crèche soit retirée de la mairie. La municipalité avait fait appel de ce jugement, mettant en avant le caractère culturel, artistique ou festif.
Artistique.
Oui, de cette fameuse crèche, avant d'être débouté par la cour administrative de Marseille. Ça va très loin. Hein. Ça n'a pas découragé Julien Sanchez, le maire de Beaucaire, RN, qui a déposé plainte devant le Conseil d'État pour discrimination. Mmh. Épilogue hier, donc. La plus haute juridiction administrative française lui donne tort. Pas de crèche dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Beaucaire.
Et on aura le maire de Beaucaire tout à l'heure dans l'émission. Est-ce que cette décision est logique ou scandaleuse, Fred Hermel?
C'est un scandale.
Arrêtez.
Ça va pas vous étonner, mais c'est un scandale parce que vous savez, moi je suis croyant, mais je suis avant tout laïque. Enfin, c'est-à-dire, je suis un laïque. Je suis un grand défenseur de la laïcité à la française. Et il faut faire la différence entre le culturel et le cultuel. Je suis désolé, mais Noël, c'est aujourd'hui dans notre culture. Il y a des juifs, il y a des musulmans qui. Mais si, mais l'aspect culturel. Pourquoi c'est culturel? Oui, et c'est artistique parce qu'il y a des santons, il y a des figurines de Noël. Il y a des figurines de Noël qui sont de véritables œuvres d'art.
Donc arrêtons. en CP
mais non,
qu'on fait
mais
des,
c'est
des,
totalement ridicule des d'interdire cela. Ça ne mange de pain à personne. Ça ne mange pas, ça, non, ça gêne
ça
personne.
Mange pas de pain,
ça mange pas de pain et ça ne dérange personne. Simplement, seuls ceux qui veulent, encore une fois, détruire notre culture judéo-chrétienne sur laquelle est basée notre culture.
Et dans ce cas-là. Mais c'est pas parce que t'as pas 300 tons dans une mairie.
Oui, non, mais c'est le symbole. Mais c'est le symbole. Alors, dans ce cas-là, on va nettoyer la langue française.
Allez.
Parce que vous savez que la langue française, elle est pleine d'expressions totalement liées à l'évangile. Par exemple, nul n'est prophète en son pays. Oui. On l'utilise souvent.
Et ben, pas tous les jours non plus.
Ben, moi, si. Voilà. Si,
écoutez, vous changez d'expression.
Oui, oui. Mais non, mais c'est ça le truc. On veut dénaturer notre culture.
Mais, pas du tout.
Mais bien sûr que si. Et c'est totalement ridicule. Donc, soutien à la mairie de Beaucaire et à toutes les villes. Et puis, en plus, c'est un truc de fête, quoi. Et c'est,
de fête,
c'est,
tu peux bien faire sûr, la fête ailleurs que dans la mairie, enfin.
Mais non, mais juste, excuse-moi, la mairie, on fait plein de trucs dans les mairies.
Ça peut être sur le marché.
Par contre, quand on fait des conférences sur le wokisme ou tout
mais
ce que vous voulez,
ça n'a aucun rapport, tu mélanges tout comme d'habitude.
Nous défendons notre culture républicaine et laïque, notre culture française, elle est judéo-chrétienne.
Tu empiles les coxigrues. Enfin, vraiment, c'est.
Ah, mais c'est.
Coxigrues n'a pas de caractère religieux.
Absolument, non, pas du tout.
Alors d'abord, explique le mot déjà, parce que
c'est une bêtise.
Une bêtise, oui, voilà.
Tu empiles les conneries en français, monsieur.
Alors, une ânerie.
La première chose, on peut être laïque et aimer les crèches. Moi, j'adore les crèches, je trouve ça beau, j'en ai construit quand j'étais gamin. J'adore les églises, vendredi dernier, j'en ai visité 3.
Les églises, vous restez. Hein.
Non, mais.
Pour l'instant.
Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être laïque et aimer ça.
Mais bien sûr. Bah,
c'est la première chose. Mais en revanche, non, pas d'indice religieux dans une mairie. Une mairie, c'est un lieu laïque. C'est
une crèche. Ah,
si on commence
religieux.
À faire des, alors
mais
tu
si
peux. Je te signale que certaines mairies font des crèches profanes, c'est-à-dire avec des santons, parce que avec
des santons. Il y a pas de petit Jésus.
Il y a pas Jésus. Il y a pas Marie. Il y a pas les
c'est
rois mages.
Quoi.
Ça fait des crèches profanes qui sont très très belles. Hein. Donc il y a pas de.
Il y a des animaux.
On ne peut pas commencer à avoir des accommodements avec la laïcité parce que si on commence, eh bien on ouvre la porte à tout. Je suis désolé. Alors je dis ça d'autant plus que je suis originaire d'un département, la Vendée, où la prégnance de la religion catholique est très forte. Il y a eu un procès qui n'est pas celui de Beaucaire il y a quelques années où il y a une mairie qui s'est battue parce qu'il y avait des statues grandeur nature de Jésus et Marie dans la mairie. Ben non. Je suis désolé, ça n'est pas possible. C'était pas une crèche, hein, c'était une statue.
Ça, c'est pas pareil.
Ben oui, mais donc, ben alors, en quoi c'est pas pareil? Excuse-moi.
Ben, tout simplement
après,
parce que,
tu peux avoir des exceptions quand tu as effectivement une crèche qui est très ancienne historiquement, classée monument historique, etc.
Il y a plein de conditions. Pourquoi c'est pas pareil? Parce qu'une représentation de la Vierge et du Christ, ça, oui, ça, c'est purement religieux. Mais la crèche, c'est la fête de Noël. C'est comme une décoration de Noël.
Le sapin, par exemple, c'est quelque chose qui est devenu profane. Ok. Ouais, ouais. Maintenant, c'est l'arbre de vie. Et c'est dans
on a le droit de mettre un sapin dans une mairie, quoi.
Voilà, tout à fait. Parce que c'est devenu un symbole profane. Faisons la même chose.
C'est une décoration.
Faisons la même. Ah non, je suis pas d'accord.
Alors, je vais laisser Julien Damon, qui est le plus sage d'entre nous, trancher dans ce débat. Julien, est-ce qu'il faut autoriser les crèches dans les mairies parce que justement, c'est partie de notre histoire, ou est-ce qu'il faut les prohiber parce que c'est religieux?
Quel suspense. Ça ne me dérangerait pas. Voilà, je le dis de façon diplomatique.
Ça ne me dérangeait pas rien, donc bon.
Si, il y a plein de choses qui me dérangent. Mais la première chose à dire, c'est que la décision est quand même logique, celle qui est prise là par le Conseil d'État. On verra avec le maire ce qu'il en pense et sa lecture de la décision qui est rendue, mais les textes, globalement, prohibent la présence de tout indice religieux dans les bâtiments publics. Personne ne voudrait, dans l'école publique, mettre des crucifix ou des croissants. Deuxième chose, les décisions successives qui ont été rendues, ça a été rappelé, tribunal administratif, cour d'appel, puis Conseil d'État, rappellent ces textes et font état de leur analyse de la proposition particulière du maire de Beaucaire, qui, comme le maire de Béziers, fait à sa manière de la provocation à laquelle pour laquelle on peut être favorable ou défavorable sur ce dossier. Moi, mon sentiment, quand même, c'est que il y a toute un environnement anti-catho, quand même, qui se déploie et qui me semble préoccupant. Je prends un autre exemple récent et qui m'est venu à l'esprit parce que Thierry évoquait la Vendée, au Sable d'Olonne. Il y a des gens qui poussent des hurlements et les décisions de justice sont prises en faveur de ceux qui poussent des hurlements contre la statue de Saint-Michel. Et il y a des bagarres théorico-théologiques.
Oui. Tu sais très bien qu'on peut reboter là-dessus. C'est parce que le terrain était privé, a été racheté par la commune, donc c'est un problème juridique.
Chaque cas d'espèce fait qu'on ne devrait pas pouvoir en parler parce qu'on ne le connaît pas précisément et donc on se dirait. J'observe simplement que quand tu as des ruptures du jeûne du Ramadan dans des mairies, ça ne pose pas trop de problèmes et on peut arguer que c'est simplement festif. Je trouve que, et je suis d'accord avec Frédéric, les racines chrétiennes françaises font que les textes pourraient même être changés de manière à ce que l'on permette à des crèches d'être présentes, pas seulement à l'extérieur des mairies, parce qu'il y en a un peu partout quand même à l'extérieur des mairies, mais peut-être dans les mairies. Moi, ça ne me dérangerait pas. Voilà. En revanche, dans le cas des textes tels qu'ils sont, en effet, ça me semble impossible.
On est avec Julien Sanchez, c'est le maire de Beaucaire, justement. Bonjour Julien Sanchez.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, et la
bonjour
décision maire du Conseil d'État, donc il n'y aura pas de crèche dans votre mairie. J'imagine que vous êtes désolé de cette décision.
Ah si, il y aura une crèche cette année, bien sûr.
Ah ouais, ça c'est pas bien.
Bah, comment c'est possible? Parce que le Conseil d'État a dit non.
Non, mais je vous l'explique très clairement. Le Conseil d'État, il a jugé hier la crèche de 2017 et la crèche de 2018. Nous sommes en 2022. Oui. Et en matière artistique, chaque exposition est différente. C'est comme si vous me disiez, il y a deux expositions de peinture, c'est pas le même artiste, mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Donc, l'exposition 2022 n'est pas l'exposition 2017.
Alors, une crèche 2022, elle a quoi de différent qu'une crèche 2017?
Ben, vous le verrez. Je vais pas dévoiler.
Le petit Jésus fait 10 cm, alors il en faisait 12.
Il n'y a pas de roi mage? Il n'y a pas de Jésus?
Écoutez, ce sont des artistes qui la font. Je crois en la liberté artistique. C'est pas moi qui construit la crèche.
Donc, oui, enfin, excusez-moi, Julien Sanchez. Mais enfin,
c'est une manière d'ergoter.
J'imagine quand même que vous savez ce qu'il va y avoir dans cette crèche et que là, ce que dit le Conseil d'État, c'est que la crèche est un objet religieux finalement. Donc, si vous avez le droit de mettre cette crèche, c'est qu'il n'y a rien de religieux dedans, en fait.
Non, mais simplement, le Conseil d'État, il avait déjà eu un jugement précédent, enfin un arrêt précédent. Il avait indiqué qu'une crèche était autorisée dans une mairie à plusieurs conditions. Que ce soit une exposition, c'est le cas, nous avons des panneaux explicatifs, qu'elle soit aussi culturelle, artistique et festive. C'est un artiste qui l'a fait, elle est festive parce qu'elle s'inscrit dans le cadre des festivités de Noël qui ont lieu sur la place de la mairie, avec des animaux, avec tout un tas de festivités. Donc je ne comprends pas cette décision d'hier, mais je le redis, ça concerne l'année 2017-2018 et en aucun cas l'année 2022.
Donc il y aura une crèche à Beaucaire, mais qui ne sera pas une crèche classique, on va dire.
Il y aura une crèche à Beaucaire avec près de 300 centons. Et pourquoi? Je le dis aussi, on est aux portes de la Provence. Ici, on a des traditions provençales et camarguaises. Le costume de l'Arlésienne, les centons, les courses camarguaises, tout ça, c'est nos traditions. Et interdire des centons en Provence, c'est quand même hallucinant.
On n'interdit pas les centons?
Non. Non, on interdit.
Si, ça revient au même.
Vous pourriez, vous pourriez avoir une crèche profane.
Oui, non, mais des centons.
Oui,
des centons.
Oui.
Des centons. Pourquoi est-ce qu'on interdirait des centons?
Ben, on interdit. Alors, si vous faites une crèche, excusez-moi, si vous faites une crèche sans le petit Jésus, sans les parents et sans les rois mages, vous n'aurez aucun problème juridique.
Oui, bah, mais c'est une crèche.
Nous avons
c'est une étable.
300 centons dans notre crèche. Là, vous me parlez de la scène de la nativité. Ça n'est qu'une petite partie des 300 centons.
Mais ça en fait partie. Et donc, vous allez être poursuivi.
Et c'est la scène.
Parce que ce réfugié, moi, ce que je trouve un petit peu ridicule, c'est que vous réfugiez derrière le fait que c'est une exposition pour ne pas assumer. Excusez-moi, je voudrais juste terminer. Pour ne pas assumer le fait que vous souhaitez qu'il y ait une crèche chrétienne dans votre mairie, ce que vous souhaitez. Et
en fait, il l'assume, mais il y contourne.
Bah voilà, vous ergotez un peu, vous contournez, vous filoutez.
Pour garder cette crèche.
Bah écoutez, quand vous ferez quelque chose de votre vie, vous me donnerez des leçons, en tout cas.
Bah dis donc, Julien Sanchez, ça va pas
bien. C'est pas très gentil de dire ça, c'est pas pas catholique. Vous connaissez pas ma vie.
Sans arrêt, quand on n'est pas d'accord avec vous, on ergote. Voilà, je suis pas d'accord avec vous, point barre, acceptez-le. Donc simplement, on est.
Non, mais ce qu'il y a, clairement, c'est que vous tenez le cap. Vous voulez, et vous avez, c'est votre choix.
Mais oui.
Vous tenez le cap. Vous voulez d'une crèche de Noël au sein de la mairie, y compris avec une scène de la nativité. Et quoi qu'en dise la justice. Voilà, vous restez sur votre position, c'est votre choix.
C'est quand même un sujet majeur de droit, c'est quand même quand les élus ne respectent pas la loi et les décisions de justice, c'est peut-être problématique. Vous allez me dire, je la respecte parce que ça ne porte pas cette décision de justice sur la crèche que je veux mettre en place. Mais vous savez, enfin, j'imagine que, et vous le déplorez, peut-être à juste titre, que votre nouvelle crèche va aller faire un tour devant le tribunal administratif aussi.
Mais non, si elle, pas si elle répond aux critères.
J'imagine qu'il y a des gens qui sont contre cette crèche et qui ont déjà prévu tout le dossier pour être dans le tribunal administratif.
En tout cas, la mairie d'Avignon, lorsqu'elle était de droite, mettait une crèche dans sa mairie, ça ne posait de problème à personne. Maintenant, c'est la mairie socialiste, donc elle l'a enlevée. Mais nous avons une crèche parce que, je le redis, c'est notre région, c'est les traditions régionales. Et j'invite chacun de vos auditeurs à venir voir notre marché de Noël et notre crèche au mois de décembre à Beaucaire.
Il a raison.
Merci Julien Sanchez, maire RN de Beaucaire. On est avec Jean-Marc qui nous appelle de Sarcelles dans le Val d'Oise. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Et Jean-Marc, vous vouliez réagir à ce sujet.
Je suis producteur de crèche.
Je viens d'entendre le maire de Beaucaire, il fait de la sémantique. Hein.
Oui. On est d'accord.
Il ergote, oui. Comme dirait Thierry Moreau, mais ça ne lui a pas plu. Hein.
Ah, non, mais bon, j'abonde dans le sens de Thierry Moreau. Hein, je dis, on ouvre la porte. Un de vos chroniqueurs a dit oui, mais le 24 décembre, c'est Noël. Noël, c'est quoi? Arbitrairement, parce qu'on n'en est pas sûr, c'est la naissance du Christ. Bon, voilà. Donc, la loi du 9 décembre 1905, c'est quoi? Oui. C'est, en fin de compte, chacun fait son, comment dirait l'autre, fait ses affaires, chacun de son côté.
On va pas supprimer Noël.
Oui, je suis d'accord. Mais une mairie, c'est un, comme on appelle ça, c'est un lieu de la République, c'est le lieu où vous allez vous marier, c'est le lieu où vous allez pour l'état civil. Vous vous mariez civilement à la mairie. Oui. Vous voulez faire un mariage religieux, vous allez à l'église ou dans d'autres lieux si vous n'êtes pas de confession catholique. Bon, je suis pas un taliban. Bon, comme je l'ai expliqué, vous savez, bon, maintenant on en parle plus facilement. Je vais vous dire franchement, je suis membre d'une association qui est très laïque, pour être très clair, je suis franc-maçon. C'est pas pour ça que excusez-moi, je vais être clair, que je bouffe du curé, c'est pas le cas de tout le monde. Mais là, je comprends pas, effectivement, je comprends pas le maire de Beaucaire qui, de toute façon, va se faire retoquer.
Oui, mais ça lui fait de la pub, donc en fait, il s'en fout, je pense.
Il parle de Santon. Il parle de Santon. Effectivement, les Santons, c'est une tradition provençale. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, comme l'a dit, je crois que c'était Thierry Moreau, si vous faites une crèche où il n'y a pas éventuellement le Christ, les rois mages, quoi.
S'il n'y a personne, c'est sûr que ça ne gênera pas.
Ça ressemble
pas à la crèche de Noël.
Ça ressemble plus à rien.
Bah non, c'est une étable, c'est tout.
Si vous mettez
j'ai une question à poser à monsieur.
Si vous mettez un crucifix qui est carré aussi, ça marche. Hein.
J'ai une question à poser à monsieur. On donne la laïcité, il faudrait que les mairies, les villes ne s'occupent plus, par exemple, de la gestion des églises.
Ah oui.
Alors, effectivement, bon, il y a un tas de choses qui jouent. La laïcité, la loi de 1905, c'est ça. C'est le fait qu'effectivement, les églises construites avant une certaine date sont entretenues par l'État.
Oui, ce sont des monuments.
Ouais. Voilà, ce sont des monuments historiques.
Donc c'est culturel. Hein. Et une église, c'est culturel. Voilà.
Ce qui est différent, Fred, c'est qu'une église, elle est là. Tu la rebâtis pas chaque année. La crèche chaque année. La crèche,
elle n'y est pas. La fête de Noël, était avant la laïcité.
Ton église, elle est là. Tu l'entends, c'est un monument.
Alors les illuminations de Noël, on en fait quoi?
Non,
mais c'est une question. Les illuminations de Noël, on en fait quoi?
Rien à voir, c'est pas culturel.
À l'époque de la naissance.
Et si ta crèche est classée monument historique, tu auras le droit de la mettre dans ta mairie.
Pas tous en même temps.
Pourquoi on illumine les rues durant la période
parce
de Noël?
Parce que c'est la fête.
On peut faire la fête
chrétienne.
Mais ça n'a rien à voir avec la chrétienté d'illuminer les rues.
Les rues à la naissance du Christ étaient peu illuminées. Tu sais ça.
Ça c'est sûr. Bon. Et surtout pas en LED.
J'ai toujours cru qu'on illuminait les rues pour Noël. Et Noël c'est une fête chrétienne.
Mais non, tu l'allumes parce que c'est la fête.
Fête chrétienne.
Et tu l'allumes aussi pour le jour de l'an. C'est la fête.
Moi je trouve que les gens qui sont contre devraient bosser le jour de Noël puisqu'ils sont aussi laïcs. Il ne faut pas de ça.
Sans être payé. J'ai une petite question pour notre ami, notre frère franc-maçon, là, une question importante.
Mais rapide.
Très rapide. Je voudrais savoir ce qu'il pense des ruptures de jeûne du Ramadan qui sont organisées dans des mairies. Est-ce que, avec ses frères ou avec d'autres associations laïques, il pense qu'il faut systématiquement attaquer les mairies qui font ça?
Non, comme je l'ai dit, je ne suis pas taliban de la laïcité. Oui, attention. Je vais vous donner un exemple. Je comprends que ça puisse faire que cette histoire puisse faire bondir des gens. Moi, il y a quelque chose, par exemple, qui existe depuis 1802, le fameux concordat, qui fait qu'en Alsace-Moselle, excusez-moi, les religieux sont payés par l'État. Il y a eu une histoire, entre autres, avec une mairie à Mulhouse
Si on est laïque pour la religion catholique, pourquoi on l'est pas pour d'autres religions?
Non mais après
Jean-Marc ne répond pas.
Excusez-moi, mais Jean-Marc n'est pas le symbole de la laïcité en France, donc après c'est son avis. Donc voilà, merci, c'est pas très grave. Merci Jean-Marc d'avoir été avec nous. Ça aurait duré 107 ans là. Donc
je réponds à ta question.
L'éternité, il faut pas qu'il y ait de rupture de jeûne dans une mairie parce que c'est un lieu, c'est la maison commune, la maison de la
religion.
Et comment s'explique que alors les mairies ne soient pas systématiquement attaquées?
Il faut les attaquer.
Ah, bah très bien, je te prends au mot.
On est avec Ludovic. Ludovic, il habite Beaucaire. Et Ludovic.
Oui, bonjour Estelle.
Bonjour.
Vous allez avoir une crèche cette année à Beaucaire.
C'est très animé ce débat-là.
Ludovic, il fait petit Jésus dans la crèche. Non, allez, je rigole. Bon, allez, pardon, excusez-moi Ludovic.
Ludovic, vous êtes soulagé ou pas?
Mais je suis soulagé parce que au départ je me disais qu'il n'y en aurait pas du tout, et puis j'ai écouté mon maire parler, donc j'ai vu qu'il y allait en avoir une, pardon. Donc je suis soulagé, mais je comprends pas trop cet acharnement. J'ai allumé RMC, j'entends parler de Beaucaire, de ma ville, de la crèche qui ne va pas avoir lieu. Là, je suis offusqué, quoi. Offusqué. C'est une superbe crèche, une des plus belles de la région, je pense.
D'accord.
Donc, je ne vois pas pourquoi elle serait annulée, pourquoi tous ces débats.
Mais voilà. C'est un événement, je veux dire, à Beaucaire, quand la crèche est construite dans la mairie, d'habitude.
Oui, c'est une très très belle mairie avec un très beau hall, et la crèche est simplement magnifique, quoi. C'est à voir. Moi, je l'ai vue une fois, et je comptais emmener ma petite cette année la voir, donc bah, on ira la voir.
Ce sera pas la même.
Alors attention, il n'y aura pas Jésus.
Il y aura Jésus, il faudra juste le chercher parmi 300 santons.
Voilà. Ah bah c'est où est Charlie ? Enfin tu vas pas
voir Jésus. C'est où est Charlie ?
Donc ça va être. C'est festif, quoi. Enfin je veux dire, il y a. Voilà. Bon, enfin vous êtes content en tout cas, vous Ludovic, en tant qu'habitant de Beaucaire.
Oui, tout à fait. Mais je comprends pas tout ce débat autour de la
laïcité.
Vous savez comment je m'appelle ? Je m'appelle Ludovic Chrétien, mais ça n'a rien à voir.
Oui, ouais. C'est normal qu'il aille voir la crèche.
Faut changer de nom.
Bientôt.
Vous pouvez choisir comme prénom Minuit.
Ah, pas mal.
On lui a jamais fait ça, là.
Non, je sais pas. Mes parents ne m'ont pas appelé Jésus. Hein. Ça aurait été,
Ouais, Jésus Chrétien, ouais, c'est pas mal. Merci beaucoup, Ludovic, en tout cas, ou Noël, d'avoir été avec nous, en tout cas, dans Estelle Midi. Vous avez des messages également, Rémi.
Très nombreux messages. Pourquoi interdire une crèche à Noël si Noël est férié ? Dans ce cas-là, Prémont,
ce jour férié. Oui, les gens
de messages qui vont dans ce sens.
Oui.
Et puis beaucoup de messages aussi. Ça, c'était Christophe qui vous écrivait. Il y a de nombreux messages, quand même, de personnes qui s'étonnent de ce débat, qui disent que la crèche de Noël, arrêtons de tergiverser, c'est une tradition, ça ne fait de mal à personne. Et ne comprennent pas pourquoi il y a autant de polémiques autour de cette crèche de Noël au sein de la mairie de Beaucaire.
Après, c'est pas notre décision de l'avoir supprimée, c'est le Conseil d'État. Donc, on relaye simplement cette décision du Conseil d'État qui fait grand bruit, en tout cas, dans le sud de la France. On vous a consulté, évidemment, comme à chaque fois, sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Crèche de Noël interdite à Beaucaire. Alors, finalement, elle sera pas interdite, hein, mais ce serait une crèche un peu 2.0, quoi. Est-ce que c'est un scandale, Rémi ?
Ça, le résultat de notre consultation, elle reflète le contenu des messages que je vous ai lus il y a quelques instants, parce que c'est un scandale et c'est massif. Hein. 86% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux estiment que c'est scandaleux d'interdire cette crèche de Noël au sein de la mairie de Beaucaire.
Allez, dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. On parlera de cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui veut que le sport soit dépolitisé. Bon, ça, c'est quand même la meilleure de l'année. Un conducteur de bus est-il responsable de la sécurité de ses passagers ? Il y avait en 2019 une jeune fille qui avait été agressée sexuellement dans un bus. Est-ce que le conducteur aussi est responsable ? Et puis, faut-il aider les auto-entrepreneurs ? Plus de 2 millions d'auto-entrepreneurs actuellement sont en difficulté en France. On en parle dans un instant. Sur RMC, sera le zapping dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h30 sur RMC, RMC Story Canal 23. On est dans Estelle Midi, toujours avec Rémi Barré, avec Thierry Moreau, Julien Damon et Fred Hermel. Et tout de suite, c'est le meilleur d'RMC, le zapping. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va démarrer avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. Faut-il que le sport soit dépolitisé ? C'est un débat que l'on a souvent sur RMC, et particulièrement avec la Coupe du Monde de foot qui débute ce dimanche au Qatar. Et bien hier, notre président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité faire part de son avis. On l'écoute.
Je pense que c'est une très mauvaise idée de politiser le sport. Que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. Il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. La vocation de ces grands événements, c'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport et de trouver aussi, par le sport, des manières de discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler. Et je pense que ça, il faut le préserver.
Faut-il dépolitiser le sport, Fred Hermel ? Moi, j'avoue que quand j'ai entendu ça, les bras m'en sont tombés. Hein.
C'est hallucinant qu'un homme aussi intelligent, un responsable politique aussi puissant, dise une... C'est quoi le mot que tu avais utilisé tout à l'heure ?
Coxigrue.
Une coxigrue, comme ça. C'est-à-dire, le sport est éminemment politique, mais de tout temps. Les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, Jesse Owen, et puis 68 avec les points levés, etc. Toute l'histoire du sport est politique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un basketteur français qui a été exclu de l'équipe de France.
Thomas Hurtel.
Portel, parce qu'il a signé dans un club russe. À ce que je sache, la France n'est pas en guerre contre la Russie. Donc, c'était une décision éminemment politique. Et parce que la Fédération française a écouté les ordres de l'État. Donc le sport est éminemment politique et c'est bien que ce soit politique. Ça fait partie. Oui. La pratique sportive n'est pas politique, mais les événements sportifs en eux-mêmes sont des événements politiques.
Je suis complètement d'accord avec toi, mais en fait dans sa déclaration il y a deux parties. Il y a la première partie où il dit le sport doit être dépolitisé et la deuxième partie où il dit très justement on aurait dû en fait au moment de l'attribution s'interroger. Donc en fait toute son explication est valide. Mais la synthèse de son explication et son amorce d'explication n'est pas évidemment acceptable parce que comme tu le dis, le sport est politique.
Non mais dans ces cas-là, il faut pas recevoir les vainqueurs de la Coupe du Monde à l'Élysée.
Non mais on est d'accord.
Je vais me déplacer s'ils vont en demi-finale. Moi, déjà, ça
veut
rien dire.
Souvenons-nous en 2018, Thierry, en Russie, Emmanuel Macron qui fait le déplacement, qui est dans les vestiaires, qui est filmé, les joueurs
qui se lèvent dans
les joueurs qui chantent la Marseillaise et qui répète à cette époque-là, c'était surprenant quand même de voir tous les joueurs de l'équipe de France, quand même peut-être des recommandations faites par l'Élysée, on leur demande liberté, égalité, fraternité, qui chantaient les valeurs patriotiques, les valeurs républicaines. C'était éminemment
politique. Quand Roselyne Bachelot est venue en Afrique du Sud en 2010,
en fait,
c'était politique.
On est tous d'accord, mais sans faire l'exégèse de ce qu'il a dit, il a simplement voulu dire politiser maintenant la compétition erreur.
Mais c'est mal dit dans ce cas-là. Et donc il y a un problème aussi.
C'est mal dit, je suis d'accord. Mais en fait, ce qu'il dit après est tout à fait juste. C'est au moment de l'attribution qu'il fallait s'en soucier. Aujourd'hui, évidemment que c'est politique. Enfin, tout. Tout est politique aujourd'hui.
Ça fait un peu déballonnage quand même, que de ne pas, au moment où, dans le débat public, revient en force ce sujet, droits de l'homme, etc., etc., de ne pas le traiter frontalement. Et quand il dit politique, c'est un drôle de mot d'ailleurs, parce que le sport, il est diplomatique, géopolitique, économique. De dire qu'il n'est pas politique...
Et le fait de dire qu'il n'ira qu'au moment de la demi-finale est aussi une position politique, d'une certaine manière.
Excusez-moi, je trouve ça grave. En fait, quand vous êtes président de la République, soit vous allez voir l'équipe de France parce que c'est l'équipe de France et donc qu'elle passe ou pas le premier tour, c'est l'équipe de France, c'est l'équipe de ton pays, de dire j'irai que s'il passe des demi-finales. Enfin, excusez-moi, il n'est pas président de la Fédé, Emmanuel Macron. Mais de quoi je me mêle en vrai? Non, mais c'est pas au président de la République de fixer des objectifs.
Mais donc
à l'équipe
c'est un acte
France.
Politique.
Et je suis d'accord, c'est pour ça que c'est idiot ces propos. Mais moi, je comprends pas en fait. Un homme politique, il va voir l'équipe de France parce que c'est l'équipe de France. Et en fait, le fait même d'aller voir l'équipe de France juste quand ça gagne. Mais moi, je trouve ça, ça ne va pas, en fait. Et ça prouve bien que c'est politique. C'est-à-dire que les hommes politiques, dès que l'équipe de France est le père, je peux vous dire qu'ils s'en éloignent. Mais alors comme de la peste. Et alors, dès que ça gagne, et vas-y que je fais ma photo, que je me gourre sur le prénom d'un tel et un tel parce que j'ai pas eu le temps de bien bosser.
Jacques
Chirac. Mine de rien, l'équipe de France. Il n'y a pas que lui, hein. Mais Bertrand Delanoé qui dit à un joueur du Paris Saint-Germain, est-ce que vous parlez français? Bon, le mec est français, hein. Donc, ça, il y en a eu, mais des tonnes et des tonnes. Et souvent, par exemple, les politiques avec le sport, ils sont ridicules. Parce que quand vous faites une erreur sur le sport, ça se voit. C'est-à-dire que vous pouvez vous tromper d'1% sur le PIB, je veux dire, de n'importe quel pays. En vrai, personne ne s'en rendra compte. Vous trompez sur le prénom d'un joueur, c'est beaucoup plus problématique.
Plus, c'est pour ça
qu'il faudrait qu'il fasse plus attention. Vous voyez.
Estelle, en plus, Emmanuel Macron est un véritable supporter de foot. C'est un supporter de l'Olympique Marseille. Il s'y connaît vraiment en foot.
Sa déclaration est
d'autant plus lunaire que lui, en plus, c'est un vrai supporter.
Ce qu'il ne veut pas dire, c'est qu'on joue au Qatar. Il y a un problème avec le Qatar de droit humain. Donc, maintenant qu'on y va, on arrête de parler de politique, on ne parle que du sport.
Et ça se résume très simplement. Mais ça, il peut pas dire.
Mais ça se résume très simplement. Dire que ça n'est pas politique, c'est une phrase éminemment politique.
Mais bien sûr, des amorces à faire.
Bon. Les GG, ce matin. Un conducteur de bus est-il responsable de la sécurité de ses passagers? En 2019, à Nice, une jeune fille de 14 ans a été agressée sexuellement dans un bus. Une vingtaine de personnes étaient présentes et avaient demandé au chauffeur de s'arrêter et d'appeler les secours. Ce dernier avait refusé. La famille a porté plainte contre la compagnie de bus pour non-assistance, ce que comprend le chef d'entreprise Mehdi Ghezard.
Une gamine de 14 ans qui rentre de l'école, qui est dans un bus. D'accord. Ses parents payent cet abonnement dans un bus. Donc il y a une prestation de service.
Oui.
D'accord. La prestation de service, c'est quoi? C'est la sécurité qu'elle le dépose de d'un point A à un point B et qu'elle soit en sécurité. Mmh. Mais d'accord, on paye ça. La société qui s'appelle,
Ligne Azur.
C'est la métropole. Est responsable de la sécurité.
Bien sûr.
De ses usagers. C'est clair, net et précis. Donc, on va finir le raisonnement. On n'est pas en train de dire comme quoi le chauffeur doit être Rambo. J'ai pas dit ça. Maintenant, il y a une chose. C'est très facile. Tu arrêtes le bus, Tu arrêtes là qui se fait. Excuse-moi, tu appelles la police. Qui n'a pas de portable en 2021, en 2020 ou en 2022? Tu arrêtes le bus. Tu cries un type qui agresse une gamine de 14 ans. Ça doit pas être un cow-boy, hein. Tu sais, le violeur, là, s'il s'attaque à une gamine de 14 ans, c'est pas un voyou, hein. Je le dis, hein, c'est une voyelle, hein. Non, mais soyons sérieux.
Oui, c'est un pervers.
C'est pas un voyou. C'est un pervers.
C'est terminé, je vais
donc, si tu lui cries dessus, il dédale.
Alors, est-ce que le conducteur de bus est responsable, sachant qu'il y avait quand même 20 personnes dans ce bus, alors que cette jeune fille se faisait agresser, et que les 20, ils ont demandé au chauffeur de bus d'arrêter le bus, mais ils pouvaient aussi essayer d'arrêter la personne. 20 contre 1, normalement, ça gagne.
Ouais. Il y a un mot de droit, il y a un mot de relation humaine. Le mot de droit, c'est payer les transports en commun et ayez toujours sur vous votre ticket ou la preuve que vous avez payé. Pourquoi je dis ça avec un petit sourire? C'est parce que c'est la preuve de votre assurance. Vous êtes assuré parce que vous avez payé votre ticket de transport. Donc, en l'occurrence, juridiquement, l'entreprise est responsable de ce qui se passe sur votre
transport. Et doit t'assurer, donc.
Et la deuxième chose, c'est évidemment que ça n'est pas le seul sujet de savoir s'il est conducteur de bus, en CDD ou je ne sais trop quoi, etc. C'est un sujet purement humain.
Exactement.
Qui est que, lui et les 19 autres ou les 20 autres, quand il y a une agression, bah, oui, c'est de la responsabilité des uns et des autres d'empêcher ce phénomène, ouais.
Non-assistance à personne en danger. Enfin, je veux dire, c'est un truc que tout le monde sait. Enfin, c'est lunaire, c'est pas question que qu'il soit chauffeur de bus ou etc. Mais et je dirais que toutes les personnes autour qui n'ont rien fait,
on peut
appeler la police aussi de son téléphone, etc. Donc c'est une non-assistance en danger collective. La personne en danger collectif.
Surtout que on demandait pas au chauffeur de bus de prendre une matraque et d'aller se battre avec le type au fond du bus.
On
demandait juste d'arrêter et d'appeler la police.
Mais pourquoi il voulait pas arrêter alors?
Bah, peut-être qu'il a eu peur aussi, j'en sais rien.
Peut-être qu'il a eu peur, peut-être qu'il a dit il faut que je tienne mon service.
Oui, parce qu'il y a des cadences, etc.
Et il y a des cadences, etc. Mais il y a un moment, comme tu le dis en droit, c'est non-assistance à personne en danger. Ça nous concerne tous, chauffeur de bus ou pas.
Sûr. Apolline Matin, ce matin, faut-il aider les auto-entrepreneurs? Un baromètre du magazine L'Express révèle ce matin que les plus de 2 millions d'auto-entrepreneurs en France se retrouvent en difficulté financière. Plus de la moitié subissent la crise de l'énergie et 9 sur 10 déclarent ne percevoir aucune aide de l'État. Témoignage ce matin pour RMC de Noura, elle est organisatrice d'événements, et de Sylvie qui est coiffeuse.
Je n'ai pas pu signer ce contrat-là car lorsque je lui ai annoncé la hausse de mes tarifs de 3 à 4% due à cette inflation, mon client habituel a préféré comparer mes tarifs avec d'autres. Je suis dans un embarras total. Si j'arrive à décrocher certains contrats, peut-être que j'y arriverai à sortir ma tête de la noyade.
L'électricité, oui, ça a augmenté. J'ai l'impression de 20%, quelque chose comme ça. C'est tout qui me tombe dessus, donc l'URSSAF personnel, l'URSSAF en tant qu'employeur, et c'est très dur. Et on vous donne aucun délai.
Est-ce qu'il faut réformer le statut d'auto-entrepreneur, Julien Damon? On a l'impression qu'il n'y a que des désavantages à ce statut.
Mais j'ai le sentiment qu'on ne parle pas que des auto-entrepreneurs.
Non, parce qu'elle est coiffeuse, donc oui.
On parle de tous les indépendants, là,
oui, c'est ça.
Qui, de fait, ne sont pas salariés, c'est ce qui les distingue, et qui ont un système de protection sociale qui, il est vrai, protège bien moins que le salariat. Le salariat protège par le chômage, protège en invalidité. On a eu un sujet d'invalidité quand on parlait de pauvreté tout à l'heure. Et c'est vrai que, et notamment une partie des auto-entrepreneurs...
Au départ, c'était un régime de complément, hein, auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que vous aviez un boulot et vous étiez en plus auto-entrepreneurs, vous faisiez des bijoux.
Il faut bien distinguer tous les indépendants. À l'intérieur des indépendants, vous avez des avocats qui gagnent des fortunes et vous avez aussi les auto-entrepreneurs qui sont indépendants, qui pour certains complètent leurs revenus en facturant des prestations annexes, parfois même sur leur temps de travail, salariés, bien. Pour d'autres, vivent dans des conditions très très difficiles et ne peuvent pas prétendre à des aides pour lesquelles ils n'ont pas cotisé et des aides qui ne sont pas faites pour les aider.
Oui, mais je pense qu'on met le doigt là sur un point. Au moment de la création de ce statut d'auto-entrepreneur, beaucoup de gens y ont vu une façon de pouvoir travailler sans payer moins de charges.
En payant moins de charges,
voilà, exactement. C'est vrai que le statut d'indépendant, alors je te rejoins, on n'est pas assez protégé en matière d'invalidité. Si on arrête son activité, on touche pas le chômage, la retraite c'est pas bien, etc. Donc ça c'est à améliorer, hein. Mais je préférerais qu'on améliore le statut des indépendants plutôt que ce statut des auto-entrepreneurs qui est à mon sens un mirage, où beaucoup de gens ont estimé qu'ils pouvaient, parce que, excuse-moi, mais si tu es coiffeuse, ou c'était quoi l'autre métier?
L'autre métier, c'était organisatrice d'événements.
Excuse-moi, mais organisateur d'événements sans avoir une société en tant qu'indépendant,
c'est pas possible.
Être entrepreneur, c'est pas possible, parce que ça veut dire que ton chiffre d'affaires...
C'est tout petit,
c'est une toute petite activité, tu ne peux pas t'en sortir. Donc de toute façon, comme l'a dit Estelle très justement, ça devrait être une d'activité de complément, mais en aucun cas un truc pour vivre de son travail, parce amis. Qu'on ne cotise pas assez en étant entrepreneur.
Encore, ça a été
c'est un mirage.
Faire Uber et
c'est un mirage.
Entrepreneur, hein.
Oui, mais c'est un mirage. Ben c'est ce
un
que
mirage
je dis.
Mirage par rapport au salariat et en effet, c'est dévoyé. Je suis d'accord.
On est d'accord.
Et au départ, bah, Uber, c'est vrai que tu avais beaucoup de gens qui faisaient ça en complément parce que
exactement.
Justement, on te le vendait comme ça. On te disait,
absolument.
Tu travailles la journée
ça a été vite fait,
et tu te fais 2-3 heures de chauffeur Uber.
Maintenant, ils sont sous-salariés.
Et maintenant, ils sont sous-salariés.
Ce sont des sous-salariés
surdépendants.
Ils ont la double peine. Mais au départ, ce régime-là, il a vraiment été créé parce que
tout à fait.
Toi tu faisais un peu de cuisine chez les gens et tu crées enfin je dis la créatrice de bijoux mais c'est totalement
mais
ça
il y a une partie des auto-entrepreneurs quand même je crois que le plafond désormais de chiffre d'affaires pour un auto-entrepreneur c'est au tout je crois que c'est 40 000 mais admettons tu peux quand même t'en sortir financièrement
mais c'est pas
mais c'est très rare oui mais sache que tu cotises moins parce que le statut justement est très favorable pour l'auto-entrepreneur et donc en période de crise tu mords pas sur les hausses d'énergie
et il y a un effet pervers c'est de faire croire notamment aux jeunes générations qu'elles sont libres. En fait, d'ailleurs, les jeunes ne veulent plus de CDD. De
CDI. Non, pas tous les jeunes.
Non, attendez, mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont moins intéressés par le CDI, alors qu'avant, les gens voulaient des CDI. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette
illusion. Vous avez l'exemple d'un voisin,
c'est les fantasmes de Fred, ça.
Non. Il faut regarder les chiffres. Cette illusion de liberté. Cette illusion de liberté que donne le fait. Ouais, je suis patron. Non, t'es pas patron parce que c'est pas une entreprise, l'auto-entrepreneuriat. Oui, c'est ça le fait. Les gens pensent qu'ils sont directeurs d'une entreprise.
Si il y a des auto-entrepreneurs heureux, moi ça me va très bien. Oui. S'il y a des auto-entrepreneurs malheureux, parfois il faut pas qu'ils viennent pleurer.
Le problème c'est qu'ils sont aujourd'hui et puis arrivés à l'âge de la retraite, ils vont se rendre compte qu'il n'y a rien du tout.
À l'arrivée au moment où ils vont être malades, ils vont comprendre.
En période de crise, c'est ce qu'on vit actuellement. D'où la difficulté des 2 millions.
Ils sont malheureux. Apolline Matin, ce matin, avez-vous commencé vos cadeaux de Noël ? Noël, c'est dans 5 semaines. On va célébrer Noël et on va faire de nombreux cadeaux à nos proches, mais certains vont aussi gâter leurs animaux en leur faisant des cadeaux parfois insolites. C'est ce que nous révèle ce matin Charles Magnin.
3 Français sur 4 comptent offrir un cadeau à leur petit compagnon. 17% avouent qu'ils pensent d'abord au cadeau pour leur animal avant de penser au cadeau pour le reste de la famille. Voilà, c'est le cadeau prioritaire. Alors, côté budget, une grande majorité d'entre eux comptent dépenser entre 10 et 20 euros, mais il y en a quand même 6% qui vont monter au-dessus de 30 euros pour le cadeau.
Un petit arbre à chat, un petit...
Ah bah alors justement, hein, qu'est-ce qu'on leur offre en tête des cadeaux? Ce sont en effet les jouets, vous avez bien vu Apolline, le joujou, mais aussi les friandises. 20% des chiens et des chats auront droit à des cadeaux un peu plus high-tech, hein, une toute nouvelle gamelle, une laisse flambant neuve. Mais mes préférés, ce sont ces 5% de propriétaires qui envisagent de lui offrir une séance de shooting photo pour Noël. Voilà.
Alors, Thierry, je ne comprends pas qu'on puisse offrir un. Je sais que vous avez un animal, mais qu'on puisse offrir un cadeau de Noël à un animal, tout comme un cadeau de Noël à un enfant de moins de 2 ans. Ça, j'avoue que je suis
complètement d'accord avec vous, je trouve ça totalement ridicule. Alors en fait, il faut analyser un petit peu ce que c'est que le cheminement quand on offre un cadeau à son animal de compagnie. Je pense qu'on s'offre un cadeau à soi-même.
Ah oui.
C'est-à-dire que quand on offre un jouet,
c'est Noël alors.
Parce que ça fait c'est une occasion. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on offre un shooting photo comme Charles en a parlé,
c'est pour
avoir une photo de son chat et on est content, on la met sur son bureau où on veut. Quand on offre un jouet, c'est pour jouer avec l'animal. Donc en fait, on fait un cadeau à soi-même. Parce que sinon, offrir un cadeau en pensant que l'animal va être content de recevoir le cadeau, c'est
pas. On est bien d'accord que l'animal ne sait pas que c'est Noël. Enfin, je veux dire.
Voilà. Je veux bien qu'on entre dans une ère où on dit que les animaux ressentent des choses, donc ils ressentent la souffrance. Qu'on se batte pour le bien-être animal, j'ai pas de problème. Qu'on se batte pour qu'ils ressentent une joie au moment de Noël, ça j'y crois pas.
C'est d'organiser une dinde de Noël dans un poulailler. Voilà.
Alors franchement, je vais vous surprendre. Mais sincèrement, chacun fait ce qu'il veut.
Oui,
c'est
aussi.
Intéressant, ça, comme analyse.
Mais non, j'écoute Thierry.
Moi, je suis d'accord.
Là, on avance.
Mesure, etc. Mais si le bonheur des gens, c'est de faire un cadeau au chien, et le chien, c'est un gros nonos,
mais ils se font plaisir à eux-mêmes.
Oui, très bien. Mais si à Noël, il a un nonos un peu plus gros que d'habitude, il sera très content.
Non mais on vient de parler, on vient de passer une heure sur la pauvreté en France, quand même.
Oui,
et là, on est à offrir un cadeau à son animal.
La culpabilisation, là, c'est.
C'est pas la culpabilisation, mais c'est peut-être.
Mais il y a beaucoup de. Ouais, sauf qu'il y a beaucoup de gens pauvres et isolés qui n'ont, notamment de femmes veuves, qui n'ont qu'un un animal de compagnie. Truc. Il a peut-être plus de cadeaux à faire.
Parce que
ces gens viennent pas le voir. Alors, faire un cadeau à son animal de compagnie.
Mais je rebondis sur ce que tu dis, mon cher Fred. Ils ont un animal parce que c'est bien pour eux. Et s'ils lui offrent un cadeau au Noël, c'est pour eux qui le font. Je ne critique pas.
C'est sûr que l'animal leur dira jamais merci.
Mais voilà.
Tu as un gros nonos.
Ouais, mais dans le poulailler. Bon. Ce qu'il faut faire, c'est mettre des crèches.
Qu'est-ce que vous avez contre les poulaillers?
Taisez-vous. Bon. Dans un instant, Stéphane Pedrazzi, la minute conso. Et Stéphane va s'intéresser aux clients mystères. C'est le bon plan pour arrondir vos fins de mois et pour passer du bon temps dans des endroits de rêve. Stéphane nous explique tout ça dans un instant, juste après cette courte pause sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h50 sur RMC, RMC Story et dans Estelle Midi à 7h. Là, on parle conso avec Stéphane Pedrazzi. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
La minute conso.
Et aujourd'hui, Stéphane, vous allez réaliser mon rêve.
Oui.
Vous savez que je rêverais de ça. Devenir client mystère.
Oui, si vous aimez faire du shopping, si vous aimez aller au restaurant,
ouais.
Si vous aimez tester les grands hôtels,
ah
les
oui.
spas,
j'adore.
Et en plus donner votre avis, et en plus être payé pour le faire,
oui.
Eh bien vous pouvez devenir client mystère. Alors comment ça fonctionne? On vous envoie en mission dans un magasin, dans un restaurant, comme si vous étiez un client ordinaire. Mmh. On va vous demander votre avis sur plein de choses, sur l'accueil, sur les produits qui sont en rayon, sur la qualité des plats, sur la qualité du massage, de la literie, plein de choses. Et tout ça de manière complètement anonyme, puisque c'est le principe, vous êtes un client mystère.
Donc ça, c'est le job de rêve. Comment on fait pour accéder à ce job, justement?
Alors, il faut postuler. Ce sont généralement des agences qui s'en occupent. Vous ne connaissez pas, en fait, le commanditaire pour ne pas influencer votre jugement. Vous ne savez pas si, par exemple, c'est la chaîne de restaurants qui vous paye pour aller tester ces restaurants ou si c'est le concurrent qui vous
d'accord.
envoie dénicher les bonnes recettes pour les copier. Ça fonctionne comme ça. Je vais vous donner les adresses des agences. Il y en a quelques-unes. QCM France, Calivox, Calimétrie, Reflet Client. Si vous cherchez directement Client Mystère sur Internet, vous allez trouver tous ces contacts. Ce sont donc des agences qui servent généralement de relais.
Et alors, on peut acheter ce qu'on veut quand on est client mystère dans un supermarché, par exemple?
Alors, si on vous demande d'acheter un produit, ça sera effectivement gratuit. Vous l'achetez, on vous le rembourse. Si on vous demande de tester un restaurant, vous ne payez pas l'addition. Dans le meilleur des cas, si on vous demande de tester un hôtel ou un massage, là encore, ce sera gratuit.
C'est
mais
bien.
En plus, vous serez payé pour être massé.
Quand oh là
c'est
là
quand
là
même
là
pas
quel
mal.
Bonheur.
Alors, petite précision, quand même. Vous ne décidez pas de manière autonome ce que vous souhaitez faire. Généralement, vous obéissez à un scénario préétabli à l'avance. Alors, par exemple, le restaurant va vous demander de tester un plat spécifique. Il va y avoir de la déception. Si on vous dit vous allez tester le croque-monsieur alors qu'il y a juste une carte absolument fabuleuse, forcément, petit pincement au cœur. Mais si le scénario prévoit un dîner en couple ou un dîner en famille, l'addition sera prise en charge pour tout le monde, le conjoint, les enfants, etc.
Ça, c'est génial. On est payé combien pour ce genre de mission?
Alors honnêtement, c'est pas très très bien payé.
Ah.
En gros, 10 euros de l'heure,
bon,
ça c'est la moyenne. Mais pour une mission de courte durée, ça peut aller de 5 à 20 euros. Ça peut atteindre 50 ou 75 euros pour un plan un peu plus long, un week-end ou quelque chose de plus complexe.
C'est
par
génial.
Exemple, si on vous envoie dans une banque, faire un dossier de prêt,
ah.
C'est moins rigolo. Mais
ah oui,
vous faites
drôle,
le client lambda, on vous demande de remplir, évidemment de mentir pour avoir un prêt. Là, ça sera un peu plus complexe, 75 euros. Attention, vous n'êtes pas toujours payé en cash. Certaines agences vous offrent des chèques cadeaux.
Ouais.
Mais bon, si vous avez plus de chèques cadeaux que de cash, vaut mieux avoir 100 euros en chèque cadeau que 20 euros en cash. Et puis à noter, bien sûr, qu'on vous rembourse les frais de transport généralement.
Est-ce qu'il y a un profil particulier pour être embauché?
Alors non, parce que l'objectif, c'est justement d'avoir tous les types de clients, de refléter une certaine diversité. Donc, ça peut être des femmes, des hommes, des deux, des jeunes, des personnes âgées. Donc, il n'y a pas de profil type. En revanche, il faut certaines qualités, pas forcément des diplômes, mais des qualités. Alors, par exemple, il faut avoir le sens du contact.
Mais c'est moi, ça.
Le sens du contact, c'est un peu toi. Sens de l'observation,
c'est
une
moi.
Bonne mémoire, c'est
oh là
indispensable.
Là.
Un peu de culture générale.
Oui, bah, ça va.
Ça va.
Oui.
Plus,
bah, oui.
Ça va.
Si c'est un peu, ça va.
Ouais. Pour écrire un rapport, c'est mieux d'avoir l'esprit de synthèse.
Bien sûr,
parfait. Pour pouvoir écrire correctement, il faut maîtriser l'orthographe. Il faut quand même que ce soit lisible.
Il n'y a aucun problème.
C'est, pas, ouais,
mais
voilà.
C'est moi, ça.
Estelle Denis, cliente mystère.
Mais j'y vais demain.
En revanche, être connu, c'est pour être mystère.
Je mettrai des lunettes de soleil, on s'en fout. Bah, ou des je sais pas. Non, mais
elle va saisir les services VIP, en fait.
J'ai un plan pour toi. Tu te déguises en jeune et tu mets un.
Mais merci.
Ça, c'est dur.
Non,
c'est dur.
Tu mets un pull marqué futur et tu te déguises en jeune.
Ah oui, comme Fred Hermel.
Déguise-toi en jeune, on ne connaîtra pas.
Je sais
pas comment le prendre, ça.
Enfin, moi, le truc, c'est que j'aimerais choisir mes missions parce qu'il y a des trucs que j'ai pas envie de faire. Parce qu'en vrai. Franchement, voilà, la question que je me pose, c'est que est-ce que si on devient client mystère, on a plus de chances, je veux dire, de se retrouver à Bora Bora une semaine avec les gosses, donc ça c'est quand même sympa, ou de se retrouver dans un supermarché et acheter des biscottes?
Alors, je vais être très honnête avec toi, les missions de rêve dans les grands hôtels à l'autre bout du monde, il y en a très peu, et elles sont confiées aux meilleurs éléments. Donc commence par aller traiter les biscottes, ensuite on te donnera peut-être les hôtels,
mais
par exemple on va t'envoyer chez Formule 1,
tester tous les hôtels par liste alphabétique en France. Genre, tu commences Cambrai, chez Rémi, et comme ça, tu fais tous les hôtels. Et si effectivement, tu produis des rapports de bonne qualité, l'agence va dire, tiens, c'est un très très bon élément. Et là, on va l'envoyer Four Seasons, Shangri-La.
Donc, avant le Bora Bora, il y a Cambrai, quoi.
Avant, oui, par exemple.
Et plus nos amis vont procéder par étapes. Voilà. Et plus les et après, t'as pris encore plus quand t'es à Bora Bora. Tu vois. Tu te rappelles où t'as commencé et tu te dis, c'est bien aujourd'hui.
Oui, mais c'est vrai que Bora Bora, dans la liste alphabétique, c'est avant Cambrai. Quand
même. Avant Cambrai.
Pas loin quand même.
Il n'y a pas de formule à Bora Bora.
Et pour synthétiser, c'est un bon plan ou pas finalement?
Alors oui, c'est un bon plan, à condition que tu le considères comme un job d'appoint. C'est parfait pour les étudiants qui ont un petit peu de temps libre. Quand on t'envoie dans un magasin, on ne va pas t'envoyer dans un magasin à Bora Bora justement. On va t'envoyer au magasin à côté de chez toi.
Bah, c'est dommage.
Donc tu as quand même plus de chance si tu habites dans une grande ville que si tu habites dans la Creuse ou un endroit où il n'y a pas de magasin. Il faut bien être conscient qu'une fois que tu es inscrit dans une agence, tu n'auras pas forcément de mission. Ça n'est pas un job à temps plein.
Oui, c'est comme donc, les agences de comédiens.
Voilà, il y a un vrai travail à fournir. Si tu penses juste à aller te faire masser aux frais de la princesse,
oui,
il faudra quand même remplir un questionnaire. Parfois, ce sont des QCM de 20 pages.
Je demanderai à mes enfants. Là.
Et parfois, il y a un petit décalage avant d'être payé. C'est ça aussi la réalité. C'est un peu comme quand tu es intermittent. Et parfois, il y a des décalages avant d'être payé.
Oui, alors d'ailleurs, vous partez en vacances, Stéphane, la semaine prochaine, vous avez bien de la chance.
Ce sont mes vacances d'été, tout va bien.
Ah, bah écoutez, super, Stéphane. Vous êtes client mystère ou vous partez, vous payez vraiment?
Non, je paye vraiment. Ah, mais en fait, les journalistes, souvent, sont exclus d'office.
Ah,
fallait commencer par ça.
Je fais pas une chronique pour les personnes ici,
oui,
quoi. C'est pour
vrai.
Ceux qui nous écoutent et qui cherchent un bon plan pour arrondir leur fin de mois.
Bonne vacances, Stéphane, vous l'avez bien mérité. Tiens, j'ai une dernière question avant de partir en vacances.
Ah, c'est
très intéressante. Vous savez que le mois de novembre, c'est le no-nut November, c'est-à-dire c'est le mois sans sexe. Est-ce que vous seriez capable, Stéphane, de ne pas faire l'amour pendant un mois?
Ben, c'est ma vie en fait.
De quoi? De faire l'amour ou de pas faire l'amour?
Non, c'est une blague. Mais pourquoi tu me poses toujours des questions
parce que
sans,
à côté
alcool,
de moi.
Sans alcool,
mais
sans
que,
sexe
mais
sans...
Parce qu'il se trouve que tu es à côté de moi et que non, tu es là à 13h50. Donc en fait, ton lancement de 14h, c'est toi.
D'accord, mais je pense qu'à partir d'un certain âge, c'est plus un choix.
Eh bien, bonnes vacances, Stéphane, et faites bon usage de ce mois de novembre qui n'est pas terminé.
Non.
Voilà, merci beaucoup, Stéphane Pedrazzi, la Minute Conso, qui continuera quand même la semaine prochaine, mais avec Paul Lassène. Dans un instant, donc, après le mois sans alcool et le mois sans tabac, voici le mois sans sexe. Un mois sans faire l'amour, cap ou pas cap, dites-nous ce que vous en pensez, si c'est possible ou pas possible pour vous. 32-16 ou l'application RMC. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.